Eh bien, mes amis, nous allons tous nous placer sous le regard du Seigneur en invoquant sa grâce sur chacun de nous. Ô Dieu, toi qui es notre Père, nous te bénissons du fond de nos cœurs de nous avoir gardés dans le chemin et de nous avoir rassemblés en ce lieu providentiel pour que nous puissions entourer la personne bénie de Jésus-Christ, ton Fils unique, celui qui est ton bien-aimé, en qui tu as trouvé tout ton plaisir, toute ta joie, de toute éternité, que tu as voulu nous donner, pour que nous aussi, nous ayons comme objet béni de nos cœurs, ton unique, ce qui fait ta joie, pour que ta joie, nous puissions la partager, ainsi que cette paix divine qui nous est donnée par la connaissance de ton bien-aimé. Nous remettons toute cette retraite sous ton regard et nous te demandons de répondre aux besoins les plus profonds de chacune de nos âmes, selon ta connaissance parfaite que tu as de notre situation et de nos motivations, de nos peines comme aussi de nos espoirs. Nous te bénissons d'avance parce que nous savons, ô notre Dieu, qu'en Jésus, nous sommes déjà exaucés. Amen. Eh bien, mes amis, en cette soirée du 25 novembre, comme dans toutes nos retraites, Mahanaïm, nous aimons à ouvrir ces retraites par une parole du Seigneur. Et ce soir, c'est une parole du Christ glorifié, du Christ dans le ciel, que je vous donne et que vous pouvez lire sur le tableau. Que celui qui a soif, et nous voulons espérer qu'il y a parmi vous des personnes ayant vraiment soif. On ne peut pas donner à boire ou forcer quelqu'un qui n'a pas soif. Mais si vous avez soif, eh bien, le Seigneur vous le dit lui-même, qu'il vienne, et vous êtes venu. Vous êtes venu. Non pas pour qu'un homme vous désaltère, mais pour que le Seigneur lui-même vous donne cette eau dont il parlait à la femme samaritaine. Cette eau qui, lorsque nous la buvons, devient en nous une source. Et ce serait vraiment formidable si vous pouviez repartir d'ici dimanche après-midi en ayant fait cette expérience que l'eau que vous auriez bu de la part du Seigneur est devenue en vous une source qui jaillit en vie éternelle. Vous êtes venu pour boire, et puis vous retournez pour abreuver les autres, les membres de vos familles, ceux qui vous entourent, les personnes que vous rencontrerez et qui ont soif. Eh bien, ayant bu vous-même, et cette eau étant devenue miraculeusement en vous, une fontaine jaillissant en vie éternelle, vous pourrez apporter à d'autres ce que vous avez reçu. Mais il ne suffit pas de venir en ce lieu. Vous êtes venu. Dieu vous a préservé dans le chemin et nous l'en bénissons du fond de nos cœurs. Mais une fois qu'on est venu, il faut vouloir. Et c'est la parole du Christ glorifié, que celui qui veut, Donc il n'est pas question de pouvoir, il n'est pas dit que celui qui peut, mais que celui qui veut. Est-ce que vous voulez vraiment prendre aujourd'hui l'eau de la vie? Ce n'est pas rien ce que le Seigneur nous offre ce soir. Que celui qui veut, vous êtes venu, mais maintenant, est-ce que vous voudrez prendre cette eau de la vie? Que le Seigneur vous donne gratuitement. C'est une parole merveilleuse. Qu'il nous dit du sein de la gloire. À nous qui venons de sentir sous nos pieds la terre trembler. C'est bien le moment de vouloir. Car vous le savez vous-même, quand la terre commencera à trembler, c'est un signe que les jugements approchent. Même aussi de ce Québec, où il se passe de plus en plus tant d'abominations, tant d'ignominies, où l'on s'est laissé aller à tous les relâchements et tous les reniements possibles. Et tout à coup, il faut que la terre tremble, parce que la parole de Dieu n'a pas d'accès auprès des âmes. Alors Dieu nous parle et je pense que nous souviendrons que le soir de notre dernière retraite ici, en cette année 1988, la terre a tremblé. Alors que j'écrivais ce texte, ayant demandé au Seigneur une parole, c'est encore le temps de la grâce. Et celui qui veut, peut prendre gratuitement l'eau de la vie. C'est avec cette parole que nous ouvrons cette dernière retraite de l'année, ici, à Châteauguay, au manoir Diouville. Je voudrais vous poser d'abord quelques questions, nous le faisons chaque fois, mais qui est ici pour la première fois? Il y a quand même quelques-uns. Hein. Qui ne connaît pas la signification du mot Mahanaïm? Bien, je ne vais pas allonger là-dessus. C'est un nom géographique, un nom biblique, qui se trouve plus d'une douzaine de fois dans l'Écriture sainte, et qui désigne un lieu en Israël. De l'autre côté du Jourdain, c'est l'endroit où Jacob, revenant de 20 années d'exil, apprend que son frère Ésaü, qui voulait autrefois le tuer, vient à sa rencontre avec 400 hommes. Jacob a peur. Et dans son angoisse, il prie. Et à ce moment-là, il aperçoit deux cohortes d'anges. Il ne voit pas Ésaü à la tête de ces 400 hommes, mais il voit deux cohortes d'anges qui viennent comme pour l'envelopper. Et quand il a cette vision d'anges, il s'écrie, mais c'est le camp de Dieu, et il appela ce lieu Mahanaïm, c'est-à-dire le camp de Dieu. Et nous avons choisi ce mot, Mahanaïm, pour bien montrer que nous n'étions pas une communauté particulière, sectaire, mais que quand nous nous réunissons, nous désirons faire vraiment cette rencontre avec le Seigneur et nous trouver en quelque sorte enveloppés par les anges qui sont les esprits administrateurs employés par Dieu à l'égard de ceux qui doivent hériter du salut. Nous sommes protégés. Vous n'êtes pas ici dans un lieu où l'on va essayer de vous attirer dans un groupe particulier. Mais nous voulons ensemble être rassemblés sous le regard de Dieu et être simplement des enfants de ce Père céleste. Vous pouvez être tout à fait en repos. Nous n'essayerons pas de faire des pressions charnelles pour que vous vous joigniez à un groupe religieux ou à un autre. Ensemble, nous voulons nous laisser conduire par le Seigneur et nous lui faisons confiance que lui aussi saura vous conduire dans le lieu où vous aurez une pleine bénédiction dans votre ville ou dans votre village. Voilà ce que veut dire Mahanaïm, le camp de Dieu. Maintenant, ce manoir d'Youville, qui est-ce qui ne le connaissait pas? Vous avez peut-être entendu parler de Marguerite d'Youville, qui était une femme qui a passé par beaucoup d'épreuves et qui ne s'est pas repliée sur elle-même dans sa douleur, mais qui a pensé, étant devenue veuve très jeune, à se donner entièrement pour les autres. C'est là que l'on prouve que l'on se donne vraiment à Dieu, Dieu qu'on ne voit pas, c'est quand on se donne aux autres. Et elle a fondé cette communauté des sœurs de la charité, communément appelée sœur grise. Et la maison que nous habitons maintenant est une de ces maisons qui appartiennent aux sœurs grises. Et nous bénissons Dieu de nous donner ce lieu de rassemblement où nous avons la possibilité de nous réunir dans une entière liberté et dans aussi un certain confort que nous ne pouvons pas donner à Cedar Lodge dans les camps que nous faisons l'été, puisque là, c'est surtout des jeunes qui peuvent bénéficier de ces camps Mahanaïm qui ont le même nom que nos retraites que nous faisons ici. Donc, nous bénissons Dieu de mettre à notre disposition, pour un prix bien raisonnable, ce manoir d'Youville à Châteauguay. Je n'en dis pas plus long. Alors, notre thème général, cette année, 1988, a été les caractères d'un vrai réveil spirituel. Vous savez que, non seulement au Québec, mais dans d'autres pays, quand on parle du Québec, on dit toujours que il se passe au Québec un véritable réveil. Il y a un réveil merveilleux au Québec et nous avons pensé qu'il était vraiment utile de nous pencher à la lumière des Écritures sur ce qu'est un vrai réveil spirituel. Qu'est-ce qu'un réveil spirituel et quels sont les caractères? Comment peut-on reconnaître un vrai réveil? Quels en sont les caractères. Alors, nous avons divisé notre thèmes, les caractères d'un réveil spirituel, en trois volets, puisque nous avions trois retraites. La première de ces retraites a eu lieu au mois de février cette année. Est-ce qu'il y en a qui étaient là au mois de février? Il y en a plusieurs, n'est-ce pas? Alors, le premier caractère que nous avons souligné en nous inspirant particulièrement du livre d'Esdras, c'est que l'autel, quand il y a un réveil, l'autel est remis sur ses bases. Ça, c'est dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Esdras, au temps du réveil qui eut lieu au jour du roi Cyrus. Une des premières choses que les Juifs remontés de la captivité ont fait, c'est de replacer à Jérusalem l'autel sur ses bases. Et nous avons vu ce que signifiait l'autel pour nous aujourd'hui. Quelle est la signification de l'autel? C'est la croix. C'est la croix. C'est sur l'autel qu'en Israël, on offrait les sacrifices, et nous savons qu'il n'y a plus maintenant de sacrifices, car un seul sacrifice, celui de Jésus-Christ, a aboli tous les autres sacrifices. Mais il reste toujours vrai qu'un réveil a pour caractère, quand c'est un vrai réveil, de remettre la croix à sa vraie place. Non pas simplement la croix comme ornement, mais la croix qui crucifie. La croix dans nos vies, la croix dans nos foyers, la croix dans toutes nos occupations. La croix reprend sa vraie place. Je ne sais pas ce que la croix signifie pour vous. Je ne sais pas si la croix a une signification pour vous. Je l'espère. En tout cas, pour moi, chaque fois que ma vie spirituelle décline, car nous sommes humains, nous ne sommes pas des hommes extraordinaires, mais je sais toujours que le seul remède, c'est de retourner à la croix. Et quand je retourne à la croix, j'ai un renouvellement spirituel. Parce que là, à la croix, je vois l'amour que Dieu a eu pour moi en me donnant ce qu'il avait de plus cher à son cœur, Jésus-Christ, qui pour satisfaire son Père a été d'accord d'aller jusqu'à la mort et à la mort ignominieuse de la croix afin de me racheter. Et quand je me souviens de la manière dont le Christ m'a aimé, prêt à tout souffrir pour moi et à endurer, non pas n'importe quelle mort, mais cette mort expiatoire de la croix, cette mort où il m'a vraiment représenté, moi le pécheur, moi qui étais damné, moi qui étais coupable, moi qui devais vivre éternellement loin de Dieu, eh bien, j'ai été aimé au point que Jésus a accepté d'être abandonné de Dieu pour que moi je ne le sois pas. Eh bien, cela me renouvelle. Et cela m'amène à m'humilier et à pleurer sur mon assidissement. Comment est-ce que j'ai pu oublier le sacrifice par lequel le Seigneur m'a racheté? On vous parle souvent du salut par grâce, c'est vrai, hein. Vous n'êtes pas sauvé par vos œuvres, mais vous êtes sauvé par la grâce. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu, et ce salut qui vous a été offert, il était gratuit, vous le savez. Mais ce salut qui était gratuit pour vous a coûté quoi à celui qui l'a accompli? Il a coûté sa vie. Christ est mort pour moi. Si je suis sauvé, c'est parce que quelqu'un est mort pour moi. Eh bien, tout réveil commence par ce retour à la croix, où notre amour pour le Seigneur est renouvelé et où l'on rend grâce au Père de nous avoir aimés au point de nous donner son Fils unique pour que nous ayons la vie éternelle. C'était donc le grand thème de notre première retraite, le sujet, le premier volet, donc l'autel sur ses bases, quand il y a un réveil, eh bien on replace la croix au centre. La croix redevient le centre pour notre vie et on accepte la croix. Ensuite, nous avons eu un deuxième volet, c'était la retraite du mois dernier, et toujours en nous inspirant du livre d'Esdras, j'espère que plusieurs parmi vous ont lu ce livre d'Esdras, après avoir remis l'autel sur ses bases, ils ont commencé à construire la maison. La maison sur son fondement. C'est par la croix que les âmes sont amenées au Seigneur. Mais ces âmes qui sont amenées au Seigneur, le Saint-Esprit les façonne et en fait des pierres vivantes d'un édifice. Le temple de Salomon avait été détruit et quand le résidu un reste des Juifs est remonté à Jérusalem, après avoir replacé l'autel à sa place, ils ont construit la maison. Mais la maison, ils l'ont construite sur son fondement. Or, pour nous, quel est le fondement qui a été posé? Il n'y en a qu'un, c'est Jésus-Christ. De sorte que l'Église, le fondement de l'Église, c'est Jésus-Christ. Et combien y a-t-il de fondements? Il n'y en a qu'un, n'est-ce pas? Vous pouvez faire partie de différentes communautés locales, mais il n'y a qu'une Église, l'Église de Jésus-Christ. Et nous proclamons l'unité de cette Église, corps de Christ dont chaque croyant est un membre. C'était donc notre retraite d'octobre qui nous a permis de traiter ce second volet. Le rassemblement de toutes ces âmes sauvées qui forment l'Église de Jésus-Christ. L'Église qui est son corps. L'Église qui est le temple du Saint-Esprit. Et alors ce soir, eh bien, nous arrivons à une troisième étape, c'est le troisième volet, c'est qu'est-ce qu'on a construit une fois que le temple a été rebâti, qu'est-ce qui manquait encore? Les murailles. Les murailles. Et c'est spécialement avec le livre de Néhémie que nous allons apprendre comment les murailles ont été reconstruites, comment on a édifié les murailles sur leur emplacement, pas n'importe où, hein, parce que c'est là notre grand danger, c'est de bâtir des murailles là où elles n'étaient pas, ou là où elles ne doivent pas être. Alors, nous allons voir, à la lumière des Écritures, ce travail des murailles qui sont reconstruites à Jérusalem. C'est un des caractères d'un véritable réveil. Dans un vrai réveil, il y a des murailles qui nous séparent du mal et du monde, mais qui en même temps nous protègent. Les murailles, eh bien, comme nous aurons l'occasion de le voir, nous sépare de certaines choses, mais aussi nous protège. On est à l'intérieur de la muraille. Mais pour faire juste une introduction ce soir, je sais que vous êtes fatigué, alors nous n'allongerons pas beaucoup. Ces murailles, comme je vous l'ai dit, vous les trouverez spécialement décrites dans le livre de Néhémie. Mais au début de cette année, quand nous avons commencé ce thème, les caractères d'un vrai réveil, nous vous avons parlé spécialement de ce qu'était le réveil. Qu'est-ce que c'est qu'un réveil? C'est le moment où l'on sort de quoi? Du sommeil. Alors, nous avons, c'est très simple ce que je vous dis, mais quelquefois il faut revenir à cette simplicité. Alors, nous avons parlé des différents sommeils dans lesquels nous pouvons tomber. Il y a le sommeil naturel, c'est très bon de dormir. Mais est-ce qu'il faut dormir toujours? Quand est-ce qu'on a besoin de se réveiller du sommeil naturel? Chaque jour. Et je voudrais tout de suite souligner que le réveil, c'est quelque chose de quotidien. C'est tous les jours que nous avons besoin d'être réveillés. C'est pas seulement une fois dans l'histoire religieuse. Alors on parle des grands réveils. Mais pour la vie individuelle, nous devons comprendre que comme chaque jour, nous avons besoin de sortir du sommeil naturel, qui est une grâce de Dieu, il nous donne le sommeil. Et nous avons vu le sommeil que Dieu peut donner, mais il y a aussi d'autres sommeils dans lesquels on peut tomber. Et je vous ai parlé du sommeil d'abord d'Adam, le premier sommeil, c'est Dieu qui l'a donné à Adam pour lui faire son opération. C'était une opération sans douleur, c'est pour ça que nous disons que Dieu est l'auteur de l'anesthésie. C'est lui qui a inventé l'anesthésie. Les médecins ont fait que suivre. Mais enfin, quand Dieu a fait cette grande opération, Adam est tombé dans un profond sommeil. Enfin, je vous cite cela en passant. Mais quand on continue la lecture de la Genèse, on voit que Noé, lui aussi, est tombé dans un profond sommeil. Mais qu'avait-il bu? Il s'était enivré. Alors il y a le sommeil de l'ivresse, n'est-ce pas, dont il faut sortir, mais hélas, il en est sorti assez honteux. Il a été un objet de scandale. Donc il y a différents sommeils. Mais le sommeil vient souvent aussi quand nous attendons un événement et que cet événement ne se produit pas. Alors on risque de s'endormir. Et nous avons pris comme exemple les vierges de la parabole. Elles savaient toutes que le Seigneur devait revenir, elles devaient être prêtes. Mais comme l'époux tardait, il est dit qu'elles se sont endormies. Et nous aussi, quand une promesse tarde à s'accomplir, il est possible que nous assoupissions. Et alors, nous avons besoin d'être réveillés. Alors, quant à ce réveil, je vous ai lu un passage que je me permets de vous relire ici, au chapitre 8 des Romains, qui nous montre quand nous devons nous réveiller. Bien, il est dit au chapitre 13, au sujet de l'amour qui doit se manifester en nous et qui est l'accomplissement de la loi, c'est l'heure, connaissant le temps où nous sommes, que c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Verset 12. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres, revêtons les œuvres de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies, de l'ivrognerie, de la luxure, de la débauche, des querelles et des jalousies. Vous savez que c'est ce verset qui a été le moyen de la conversion de qui? De celui qu'on appelle saint Augustin. C'est simplement par la lecture de ce texte qu'il s'est converti. Et lundi et mardi, j'avais une retraite pour des théologiens et j'ai appris quelque chose qui m'a vraiment encouragé, parce que je crois à la puissance de la parole. Et un de ces théologiens m'a raconté sa conversion. Il a été plusieurs fois en prison avant sa conversion. Et puis, il avait une amie qui lui écrivait, qui n'était pas encore au Seigneur, mais qui aimait quand même la Bible. Et un jour, qu'il est sorti de prison, elle lui a dit, tu sais, hein, maintenant, je veux que tu t'asseyes là et que tu lises, toi, un texte de la Bible. Puis, pour faire plaisir à son ami, le duc, bon, pourquoi pas. Et vous savez ce qu'elle lui a fait lire? Elle lui a fait lire dans les Proverbes. C'est pas du tout le plan du salut. C'est pas les quatre lois spirituelles. C'est pas la petite combine à conversion. Elle lui a fait lire dans les Proverbes les choses qui sont abominables aux yeux de Dieu. Vous connaissez le passage 6, verset 16, hein? Je suis content que vous le trouviez. Oui, elle lui a dit, tu vas lire ça. Alors il a lu à haute voix. Il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent. Il avait fait des hold-up lui aussi. Le cœur qui médite des projets iniques. Qu'est-ce que vous voulez faire quand vous sortez de prison? Il faut en sortir. Alors on médite des projets iniques. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Le faux témoin qui dit des mensonges. Et celui qui excite les querelles entre ses frères. Ce gars a lu cela, puis il m'a pleuré. Simplement cela. Puis il est parti, et il m'a raconté que c'est ce verset qu'il a amené au pied du Seigneur. Sans personne. Et il s'est mis à lire ce livre en partant de ce verset. Et il s'est converti, et il est pasteur maintenant. Et il a, si je ne me trompe, plusieurs enfants. Je crois à la puissance de la parole de Dieu. Et c'est pas nous qui pouvons sauver quelqu'un. Mais si vous recevez la parole dans votre cœur, il y a une puissance qui peut transformer. Et c'est cela l'importance de la parole. Eh bien, saint Augustin, il avait 30 ans, il avait fait les 100 coups, il vivait dans la débauche, et il s'est trouvé à Milan, chez un ami, et il était dans le jardin de cet ami, et il y avait le rouleau de l'épître aux Romains qui était sur une table dans le jardin, et il a entendu ces paroles, « Prends et lis », il a ouvert, et il est tombé sur ce texte. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des orgies, c'était sa vie à lui. Alors il s'est senti concerné. De l'ivrognerie, de la luxure, de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais qui est-ce qui était derrière tout cela pour Augustin? C'était une femme qui s'appelait Monique, et qui priait pour la conversion de son fils. Et sa prière a été entendue, mais c'est par la parole qu'Augustin a été converti et qu'il est devenu l'homme que l'on connaît et dont les écrits nourrissent encore notre âme. La puissance de Dieu par la prière et par la parole. Et le verset 14, « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Voilà, jusque-là, Augustin avait soin de la chair pour satisfaire ses convoitises et ça a été fini. Voilà la puissance de la parole. Eh bien, dans cette fin de semaine, nous voulons croire que si un texte des Proverbes a sauvé quelqu'un que j'ai vu cette semaine même, eh bien, la parole pourra nous édifier et nous montrer ce qu'est la vraie séparation dans les jours qui viennent, donc demain et dimanche. Nous allons nous pencher spécialement sur les chapitres du livre de Néhémie. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà lu Néhémie? Eh bien, vous le relirez, puisque les rabbins juifs nous disent que chaque verset a au moins 70 sens différents. Pas opposés, n'est-ce pas? Mais qu'on peut trouver 70 interprétations qui nous enseignent et qui nous instruisent. Et nous considérerons encore un peu le livre d'Esdras, parce qu'Esdras et Néhémie vont ensemble. Autrefois, ce n'était qu'un livre. Le livre d'Esdras et celui de Néhémie. Il ne formait qu'un livre. Et c'est deux livres qui nous décrivent ce qui s'est passé après que Cyrus, roi de Perse, ait proclamé un édit parmi les captifs qui se trouvaient en exil à Babylone. Un édit disant que tous ceux qui ont été déportés du pays d'Israël et qui voudraient y retourner soient libres d'y remonter. Vous savez que quand Nebuchadnezzar a emmené en captivité le peuple de Juda, eh bien, il a détruit la ville. Il a détruit le temple, l'autel, bien sûr, le temple et les murailles. Tout a été détruit. Et la politique de Nebuchadnezzar, c'était de déporter le peuple. On vidait presque complètement les villes du pays et on les emmenait en captivité. Tandis que la politique des Mèdes et des Perses était tout le contraire. C'était plutôt de faire revenir dans leur contrée, dans leur territoire d'origine, ceux qui avaient été emmenés en exil, ou leurs enfants, ceux qui le voulaient. Donc, vous voyez, les gouvernements changent. Il y avait le royaume de Babylone qui avait menacé Israël, mais Dieu avait averti Israël que si Israël, si le peuple ne se convertissait pas, si Juda et Benjamin ne revenaient pas de leurs péchés, de leurs iniquités, eh bien, le jugement allait fondre sur la ville. Mais on était tellement tranquille. Nous avons le temple de l'Éternel, le temple de Salomon. Il ne peut rien nous arriver. Nous avons le temple. Alors il y avait un prophète comme Jérémie qui disait, mais ne mettez pas votre confiance dans des paroles de mensonge disant c'est le temple de l'Éternel, c'est le temple de l'Éternel, c'est le temple de l'Éternel. Allez à Silo qui était mon lieu autrefois et voyez ce que j'en ai fait à cause des iniquités du peuple. Et voilà, le pauvre Jérémie, il se levait très tôt le matin, il prêchait la repentance au peuple, et hélas, le peuple n'est pas revenu au Seigneur. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Les menaces de Dieu ont tôt ou tard leur accomplissement. Il faut prendre Dieu au sérieux. Dieu a parlé, et il a dit que si nous marchons dans nos propres voies, selon les regards de nos yeux et nos propres, un jour ou l'autre, il y aura le châtiment. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Et vous savez, ça nous fait trembler. Dieu a parlé. Ses lois, ses préceptes, ses principes, tout est mis de côté maintenant. On vit très bien sans Dieu. Oui. On se passe merveilleusement de Dieu. De Jésus, ne m'en parlez pas. Même ici, au Québec, ce n'est pas Jésus qui préoccupe les âmes. Oui, il y a nos milieux évangéliques. Mais qu'est-ce que c'est? Vous savez, c'est très grave. Alors un jour, Jérusalem a été environnée par Nebuchadnezzar. Il y avait déjà eu deux déportations et ça a été la fin. On ne se moque pas de Dieu. Mais Dieu est un Dieu de grâce. Il avait dit par Jérémie qu'au bout de 70 ans, il visiterait le peuple en exil. Et 70 ans après la destruction de Jérusalem, qu'est-ce qui s'est produit? Le royaume de Babylone a été vaincu et ce sont les Mèdes et les Perses qui ont succédé à la monarchie babylonienne. Et Cyrus, dont le nom avait été prononcé par le Seigneur au prophète Ésaïe, Cyrus a été l'instrument de Dieu pour faire remonter les captifs en Israël. Les promesses de grâce ont aussi leur accomplissement. Alors, ceux qui ont voulu, mais c'était uniquement des volontaires, hein, ceux qui ont voulu sont remontés. Et c'est cela que nous avons vu, c'est cela le réveil. Il est dit que Dieu a réveillé d'abord le cœur d'un païen, l'esprit de Cyrus, qui a été sensible à cette parole. Probablement que Daniel a pu lui montrer les livres d'Ésaïe qu'il avait, où son nom, 200 ans avant sa naissance, était écrit. J'emploierai Cyrus, mon élu. Et Cyrus a été l'instrument de Dieu pour accomplir sa volonté. Et ceux qui ont été réveillés par l'appel de Cyrus sont montés et ont rebâti l'autel, puis la maison. Et nous avons vu dans la dernière fin de semaine qu'il y avait eu toute espèce de difficultés, le travail avait été arrêté et nous avons vu comment c'est par la parole des prophètes Agée et Zacharie que le travail a été repris et a été amené à bonne fin. Mais après ce réveil momentané, eh bien, qu'est-ce que nous allons voir? On retombe dans le sommeil et dans la transgression. Même ceux qui étaient remontés de la captivité, qui avaient connu ce réveil, ils n'ont pas suivi fidèlement le Seigneur. Et alors, de nouveau, il y a eu des épreuves et il a fallu un nouveau réveil qui a eu lieu au temps des grâces. Donc c'est déjà l'heure de nous réveiller, pour nous aussi. C'est l'heure de nous réveiller, de prendre la parole de Dieu au sérieux et de ne pas attendre que la terre tremble à nouveau ou que nous devions connaître des épreuves plus grandes. Sa parole peut nous réveiller. Donc demain, je vais vous dire un peu pour ceux qui ne sont jamais venus ici, comment nous allons procéder. Vous avez l'horaire que vous pourrez consulter. Dieu notre Père, nous voulons te demander que ce que tu as décidé dans ton cœur pour chacune de nos âmes, tu puisses vraiment l'accomplir. Et que dès cette nuit, cette première nuit en ce lieu, nous puissions t'entendre par ton esprit, parler à nous. À nos consciences, à notre intelligence. Nous ne voudrions pas être de ceux qui sont réveillés par un tremblement de terre, mais de ceux que ta parole révèle. Cette voix douce et subtile, car tu n'es pas dans les cataclysmes. Nous les provoquons peut-être par nos péchés, mais tu n'es pas dans les cataclysmes. Tu es dans la voix douce et subtile qui voudrait atteindre nos consciences et nos cœurs pour nous donner la vraie joie, la vraie paix, le vrai bonheur. Nous voulons te demander que tu bénisses cette soirée, nos entretiens, nos contacts et que tu nous donnes le repos dont les uns et les autres ont besoin. Et que demain, nous puissions voir une journée de lumière, de vie, d'amour, de libération, de déculpabilisation, de joie, de paix et d'espérance, quelle que soit notre situation, pour la gloire du Père au nom du Fils et par la puissance du Saint-Esprit. Veuille encore accompagner ceux qui n'ont pu nous rejoindre et que tu les préserves dans le chemin pour l'honneur de ton nom. Amen. Je veux croire que Dieu, dans sa grâce, vous a donné un bon repos. Quelquefois, dans sa grâce aussi, il nous prive de sommeil, mais parce qu'il a quelque chose à nous dire. Il aime à nous parler. Lorsque l'on est aussi étendu dans un moment de relaxation, il sait nous parler. Enfin, nous pouvons prendre toutes choses comme venant de lui. Mais il sait, lui qui nous a créés, que nous avons besoin aussi de sommeil. Et il sait aussi à quelle heure il doit nous réveiller. Vous voyez comme on a des montres, nous autres, dans le temps présent. Alors hier soir, je me suis dit, il faut au moins que je me lève à 4 heures demain matin. Mais est-ce que je me réveillerai? Puis j'ai mis ma montre à 4 heures pour que... Mais à 4h05, avant que ça sonne, le Seigneur m'avait réveillé. C'est tellement merveilleux de pouvoir vivre avec lui et d'avoir la confirmation que c'était la bonne heure. Parce que après, le temps passe vite. Alors j'ai pu me tenir devant lui ce matin, dans la paix, dans le silence, et l'écouter. Et le texte qu'il m'a donné est celui que j'ai mis ici sur ce tableau. Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. C'est une parole que vous trouvez dans le chapitre 15 de l'épître de Paul aux Romains, le verset 4e. Et je voudrais souligner tout de suite que l'expression « les Écritures » concerne essentiellement quelle partie de la Bible ? L'Ancien Testament. Bien sûr que le nouveau qui a été ajouté à l'Ancien, eh bien, forme avec l'Ancien toutes les Écritures. Mais au temps de l'apôtre Paul comme au temps de Jésus, quand on employait le mot « les Écritures », de quoi parlait-on ? De l'Ancien Testament. Et Dieu a mis dans mon cœur depuis bien des années ce désir de faire connaître au peuple l'Ancien Testament, de leur montrer les richesses que nous avons dans l'Ancien Testament qui sont appelées les Écritures. Jésus lui-même, quand il était sur la terre, disait aux Juifs qui connaissaient l'Ancien Testament, enfin la Torah qui était formée de la loi, des psaumes et des prophètes, les trois grandes divisions des Écritures au temps de Jésus, eh bien Jésus disait, vous sondez les Écritures, vous lisez les Écritures, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. De sorte que dans l'Ancien Testament, vous pouvez trouver quel témoignage ? Le témoignage de Dieu au sujet de son Fils. Toutes les Écritures rendent témoignage de lui. Tout l'Ancien Testament est rempli de la personne du Seigneur. Et si j'aime beaucoup la version œcuménique de la Bible, c'est parce que ils ont pensé que c'était juste de traduire le mot « éternel » que vous trouvez dans l'Ancien Testament et qui a toujours sa valeur, hein, par le nom du Seigneur. Seigneur, parce que c'est le même Seigneur. Il n'y a pas un Dieu dans l'Ancien Testament et puis un dans le Nouveau Testament. Chaque fois que vous trouvez le mot « éternel » dans l'Ancien Testament, c'est le Seigneur avant son incarnation, avant qu'il revête un corps. Alors, tout de suite, vous êtes intéressé à rechercher ce que vous pouvez apprendre du Seigneur dans l'Ancien Testament. Alors, Paul disait ceci, tout ce qui a été écrit d'avant, c'est-à-dire tout ce que vous trouvez dans l'Ancien Testament, qui était écrit avant le Nouveau Testament, là est pour notre instruction. Donc il n'y a pas une page de la Bible que vous deviez négliger. Même ces pages, comme vous aurez l'occasion de le voir, où il y a des noms impossibles, des noms à coucher dehors. Hein. Eh bien oui, peut-être, parce que vous n'êtes pas habitué à cette langue-là. Mais enfin, si le vôtre y était, vous liriez cette liste, automatiquement. Quand vous passez un examen, puis qu'il y a dans les colonnes du journal les noms de ceux qui ont réussi, vous lisez toute la liste pour y trouver le vôtre. Et c'est ça qui est merveilleux. Dieu vous connaît par vos noms, vous n'êtes pas des êtres anonymes. Chacun de vous a son nom et compte pour le Seigneur. Alors, on peut aussi lire ces choses-là. Et tout à coup, au milieu de tous ces noms, il y a une de ces perles, une petite explication au sujet de l'un ou de l'autre, que Dieu a voulu que nous sachions. Chez certains, il y avait plus de zèle que chez d'autres, et cela est mentionné. De sorte que tout ce qui a été écrit l'a été pour notre instruction. Et j'aime apprendre le plus souvent dans mes explications, même du Nouveau Testament, des exemples dans l'Ancien Testament. Parce qu'il est dit que ce qui est arrivé à tous ces hommes que vous connaissez par l'histoire sainte autrefois, mais maintenant par une lecture personnelle de la Bible, tout ce qui est arrivé à ces hommes a été écrit
pour nous servir d'exemple. C'est pas simplement pour que l'on sache que telle personne a fait ceci ou a fait cela, mais que l'on voit ce qui est arrivé à certains de ces hommes, ou à cause de leur fidélité, ou à cause de leur infidélité. Et tout nous parle, hein. De sorte que, comme le disait Goethe, déjà quand il lisait la Bible, au fond, la Bible, ou l'histoire d'Israël, c'est notre histoire. C'est vrai. C'est notre histoire. C'est notre cœur que nous retrouvons dans tous ces chapitres. Et alors, nous sommes alertés, nous sommes saisis. L'autre jour, quelqu'un me disait, mais moi je comprends pas, le livre d'Esther, qu'est-ce que ça peut bien nous apporter? Qu'il y ait dans la Bible le livre d'Esther. Il n'est pas même parlé de Dieu. Mais mes amis, vous ne connaissez pas le grand commandement de Dieu? Tu ne prendras pas le nom de ton Dieu en vain. Nous ferions bien mieux de ne pas toujours parler de Dieu, de ne pas toujours avoir le Seigneur Jésus dans la bouche, mais de l'avoir dans le cœur. Parce que vous agacez le monde avec votre Dieu. Vous agacez le monde avec Jésus, mis à toutes les sauces. Mais si vous viviez dans une communion réelle et intime avec votre Père des cieux, le monde verrait en vous quelque chose. Ou en tout cas se poserait une question. Votre vie poserait une question et puis on viendrait vous demander quel est votre secret. Et alors là, vous pourriez sortir le nom de Dieu. Comprenez-vous? Et vous n'assassineriez pas les gens avec le nom de Dieu. Tu n'emploieras pas le nom de ton Dieu. Dans le livre d'Esther, Dieu n'est pas mentionné. Mais il est là, au-dessus de tout, qui dirige toutes les opérations de ce merveilleux livre d'Esther. Et je disais à cette personne, voyez-vous, cher ami, c'est vraiment le dernier livre qu'on est en train d'étudier, que l'on aime le plus. Dans la Bible, tous les livres sont merveilleux, mais celui que nous trouvons le plus beau, c'est le dernier que nous sommes en train d'étudier, mais à genoux. Quand je dis à genoux, je ne vous dis pas de vous mettre à genoux, mais prosterner intérieurement dans notre cœur et notre âme criant vers le Seigneur pour qu'il nous illumine, qu'il nous éclaire, car c'est cela qu'il veut nous donner. Il donne l'intelligence aux saints. Eh bien, soyons assez saints pour lui dire, Seigneur, moi je n'ai pas d'intelligence, moi je ne suis pas capable de comprendre, mais tu peux me donner ton esprit. Pour que je puisse lire, pour que je puisse être instruit par ta parole. Et puis, qu'est-ce que vous verrez, qu'est-ce que vous découvrirez? Eh bien, dans les Écritures, en lisant les Écritures, vous aurez quoi? La patience. C'est pas quelque chose dont nous avons besoin? Bien, vous dites, Seigneur, donne-moi la patience si vous attendez qu'une petite colombe descende sur vous. C'est la grâce de la patience. Lisez les Écritures et vous recevrez ce que vous avez demandé, la patience. La patience, nous avons besoin de patience. Et quand vous lisez la vie de ces hommes, vous voyez qu'ils ont eu de la patience, mais que Dieu n'a jamais été en retard. Il est toujours là à l'heure. C'est nous qui sommes ou en avance ou en retard, mais Dieu était là. Pourquoi suis-je venu et il n'y a eu personne? Pourquoi ai-je appelé et il n'y a eu personne qui répondit? Nous avons couru ici, à droite et à gauche, pour trouver une réponse, alors que nous avions à rester là, dans l'attente. Seigneur, il me semble que tu tardes, mais il n'y a pas de retardement. Puis alors, surtout, ne nous endormons pas parce que nous ne voyons pas le résultat, nous ne voyons pas la réponse immédiate. Il sera là. À son heure, au moment précis où nous avons besoin de lui. Eh bien, quand vous lisez la Bible, vous arrivez à recevoir cette patience. Et puis quoi? Qu'est-ce que nous avons encore besoin dans ce monde? De consolation. Les gens ont besoin de consolation. Eh bien, la lecture de la Bible me donne la consolation. C'est quelque chose de merveilleux. Ta parole m'a fait vivre. Ta parole me console. Et ce sont des consolations vraies. Ce ne sont pas des consolations de ses amis de Job qui étaient des consolateurs fâcheux, n'est-ce pas? C'est les vraies consolations. Et vous pouvez vous appuyer sur les paroles de Dieu. Elles me consolent. Et il ne peut pas me mentir. Et puis, ensuite, qu'est-ce que nous avons besoin? Posséder l'espérance. Voilà ce que peut vous donner la lecture de la parole de Dieu. La patience, la consolation dans quelque affliction que vous vous trouviez, et puis espérance. Il voudrait que vous la possédiez, hein, que vous fassiez votre espérance. Eh bien, que Dieu nous donne aujourd'hui de découvrir dans les textes que nous allons lire, dans le livre de Néhémie, ce livre, mon Dieu, Néhémie, qu'est-ce que c'est? Comme ce jeune étudiant théologique à qui l'on parlait d'Amos, du Amos dans la Bithybie. Il ne savait pas qu'il y avait Amos. Amos, pour lui, c'était dans la Bithybie. C'est vrai qu'il y a un Amos dans la Bithybie, n'est-ce pas? C'est absolument vrai. Mais il y a autre chose. Il y a un prophète qui s'appelle Amos. Il s'appelle Amos. Alors, nous allons être de ceux qui allons lire l'Écriture, hein, nous familiariser avec toutes les portions de l'Écriture et découvrir que le livre de Néhémie est aussi pour nous un livre merveilleux. Et qui va nous donner des enseignements sur le thème que nous allons poursuivre au sujet des caractères d'un vrai réveil spirituel et qui est pour nous aujourd'hui les murailles sur le remplacement. Parce que dans le livre de Néhémie, il est parlé plus de 30 fois des murailles. Donc, c'est bien le sujet de Néhémie. Mais qu'est-ce que ces murailles ont à nous dire à nous aujourd'hui? Ô Dieu, notre Père, tu nous aimes d'un amour infini et nous nous sentons enveloppés par ton amour, par ta grâce. Nous voulons te demander que les journées que nous allons passer ensemble, les heures que tu vas nous donner, soient des heures de pleine bénédiction. Tu nous as invités hier soir à boire, à venir à nous sommes venus ici et maintenant nous voulons boire cette eau de la vie que nous trouvons dans ta parole. Et nous te demandons de faire ce miracle pour nous afin que réellement quelque chose de définitif se passe dans tout nos cœurs et que nous devenions de ces hommes et de ces femmes qui aiment ta parole parce que cette parole les fait vivre pour la seule gloire de notre Dieu et Père, de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Dieu et notre Père. Amen. Eh bien, mes amis, nous sommes heureux de vous saluer ce matin en espérant que vous avez eu une nuit de repos et que cette journée commence vraiment avec la lumière du Seigneur, afin que nous puissions terminer cette dernière retraite de l'année ici, dans la paix, dans la joie et conscient que le Seigneur a répondu aux besoins de nos cœurs. Dieu notre Père, nous te louons et nous te bénissons parce que c'est toi qui nous donnes la force, c'est toi qui nous donnes la joie, c'est toi qui nous donnes la paix. Et mieux que cela, tu es
notre joie. Tu es notre paix. Tu es notre force. Et nous voulons te laisser vivre en nous. Nous voulons laisser ta personne vraiment nous remplir afin que réellement nous ne manquions de rien. Car quand nous t'avons, Seigneur Jésus, nous avons vraiment toute chose. Et quand nous t'avons, nous avons le bonheur de Dieu, le bonheur du Père. Qu'il en soit ainsi pour nous aujourd'hui et pour le reste de notre course terrestre, pour ta seule gloire. Amen. Ce matin, chers amis, le Seigneur m'a rappelé ces textes que je vous ai écrits hier et depuis vendredi soir. Nous nous sommes occupés donc de la reconstruction des murailles de la ville de Jérusalem après l'exil. Et nous avons vu hier l'achèvement de ces murailles. Et maintenant que ces murailles sont achevées, j'ai pensé à Ésaïe 62. C'est un texte que l'on entend souvent quand on va à Jérusalem. Ceux qui y habitent et qui sont des chrétiens messianiques, qui ont reconnu que Jésus était le Messie et qui sont juifs, aime beaucoup à citer ce passage. « Sur tes murailles, Jérusalem, j'ai établi des gardiens, et ils ne se tairont jamais de tout le jour et de toute la nuit. » Et ces croyants juifs sont à Jérusalem et implorent le Seigneur jour et nuit qu'il se fasse connaître au peuple d'Israël. Et ils s'estiment comme les gardiens sur les murailles. Eh bien, nous aussi, nous savons maintenant comment les murailles doivent être construites et pourquoi il faut qu'il y ait des murailles. Non pas des murailles pour nous séparer les uns des autres, mais pour nous préserver du mal et du monde. Et je veux croire que petit à petit, cette vision des murailles vous aura été donnée, et ce qu'est une vraie séparation. La vraie séparation, c'est une séparation du monde et de ce qui est dans le monde. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Voilà ce qui est dans le monde. Et ce que l'Écriture nous enseigne, c'est de ne pas aimer le monde ni les choses qui sont dans le monde. Et c'est de cette séparation qu'il s'agit. Quand il est question de séparation, le croyant est séparé des choses qui sont dans le monde. Et il nous faut bien comprendre cela. Mais il y a ensuite cette parole qui est dite à Jérémie. « Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. » Autrement dit, selon une autre traduction, « Tu seras mon porte-parole. » Vous désirez devenir les porte-paroles du Seigneur, eh bien, il faut une séparation, se séparer de ce qui est vil. Mais vous l'avez compris, pour nous aujourd'hui, en cette fin du siècle, il y a un terrible danger. Et je veux croire que le Seigneur vous parlera encore. Nous construisons maintenant
des murailles dans nos groupes. Nous faisons des tours d'ivoire dans chacune de nos communautés. Et nous nous séparons de frères, nous nous séparons de véritables enfants de Dieu parce qu'ils n'ont pas peut-être la même étiquette que nous ou sur certains points secondaires, ils n'ont pas les mêmes pensées ou les mêmes habitudes. Eh bien, que le Seigneur nous préserve de cela parce que nous construisons des tours d'ivoire. Et dans ces tours d'ivoire, qu'est-ce qui s'est introduit? Le monde. Et par quels moyens? Ben, spécialement par la télévision. De sorte que vous pouvez construire toutes les murailles possibles, vous ne vous séparez pas du monde. Alors, c'est là que vous devez vous souvenir de ce texte de Jérémie. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, il faut savoir, si vous avez cette télévision, fermer le poste. Hein. Tu seras comme ma bouche. Et je te ferai être pour ce peuple une muraille. Et c'est cela qui doit compter pour nous. Que chacun de nous comprenne qu'il doit être une muraille. Que là où il se trouve, eh bien, il y a une séparation d'avec ce que le Seigneur éprouve, et puis en même temps que ce soit une protection. Une muraille sépare, mais aussi protège. Eh bien, que ces deux caractères, nous puissions les avoir dans nos vies, séparation et protection. Sur tes murailles, Jérusalem, j'ai établi des gardiens. Ils ne se tairont pas ni de jour, ni de nuit. Vous qui faites se ressouvenir l'Éternel. Ce sont des gens qui disent, ô Dieu, tu l'as dit, ô Dieu, tu as promis la délivrance, et ils crient vers lui jusqu'à ce que le Seigneur réponde. Et ce que nous savons, c'est que le Seigneur répondra. Bien, je lui demande que jusqu'à cet après-midi, le Seigneur, par son esprit, puisse faire son travail dans nos cœurs et que nous puissions comprendre enfin ce qu'est la vraie séparation. Être séparé du mal et du monde et non pas des âmes. Jésus était proche de toutes les âmes, mais séparé du mal. Ce n'est pas le contact avec les âmes ou avec des frères qui nous souille, c'est de garder du péché dans son cœur. Et bien que le Seigneur nous enseigne encore aujourd'hui et que nous puissions voir sa lumière resplendir sur notre sentier. Maintenant, je donnerai la parole à Noël qui a peut-être plus
à placer tous les moments que nous allons vivre ensemble sous ton regard. Nous te demandons de faire taire toutes les voix du dehors, et que dans le recueillement le plus profond, nous puissions t'entendre nous parler. Oh, nous voudrions pouvoir quitter ce lieu en ayant compris que nous avons à faire la différence entre ce qui est saint et ce qui est profane, et à apprécier les choses que tu aimes, ô notre Dieu. Que nos affections pour toi soient renouvelées et que nous puissions connaître vraiment ce qui est précieux à tes yeux et rejeter avec horreur tout ce qui est vil, pour que nous puissions être comme ta bouche dans nos foyers, dans nos relations conjugales, dans nos relations familiales avec nos enfants, dans nos rapports, dans la société, que nous puissions devenir comme ta bouche, ou être vraiment tes porte-paroles. Nous te le demandons du fond de nos cœurs, que ces retraites aient une suite dans notre vie quotidienne, dans nos foyers et aussi dans la société dans laquelle nous devons vivre. Et que, sachant ce que sont les murailles, nous ne mettions pas de murailles entre nous et des frères bien-aimés, des frères pour lesquels tu as aussi donné ta vie, et que nous puissions les aimer de ton amour et être les gardiens de ta parole sur les murailles, pour la gloire du Père, au nom du Fils et par la puissance du Saint-Esprit. Amen.